VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 17 novembre 2016 en direct de Washington. Idriss Assedoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Idriss Déby Itno écourte son séjour au Maroc pour rentrer au Tchad où l'opposition projette une action aujourd'hui.
Les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté de presse dénoncent le meurtre de notre confrère Marcel Loubala en RDC.
Conférence de donateurs aujourd'hui à Bruxelles pour financer le relèvement de la République centrafricaine.
Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, met en garde contre le risque d'atrocités de masse au Soudan du Sud.
La Russie porte à son tour un coup sévère à la Cour pénale internationale en annonçant hier son intention de retirer sa signature du traité fondateur.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le président tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine, a écourté son séjour à Marrakech pour rentrer dans son pays où les tensions se multiplient. Des détails avec John Linden.
La situation est tendue au Tchad où l'opposition a convoqué pour ce jeudi un meeting et une journée ville morte pour le 22 novembre. Hier, le ministre de la Sécurité publique a strictement interdit cette manif de l'opposition. En août dernier, la répression d'une manifestation s'était soldée par la mort d'un jeune homme à la veille de l'investiture du président Déby pour un cinquième mandat. L'opposition dénonce autant la situation sociale et les mesures d'austérité imposées par le régime. Le gouvernement tchadien doit par ailleurs faire face ce jeudi à une motion de censure à l'Assemblée pour sa gestion de la crise économique et financière dans ce pays frappé par la crise pétrolière. Des tensions ont eu lieu également à Miandoum, dans une zone pétrolière où un conflit foncier a fait en début de semaine 7 morts et une soixantaine de blessés.
En République démocratique du Congo, des voix s'élèvent pour condamner l'assassinat d'un journaliste à Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. Notre confrère a été tué dans la nuit de lundi à mardi par des hommes en uniforme. Le point avec Eddie Isango.
Les Nations Unies et les organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté des presses dénoncent le meurtre de Marcel Loubala, journaliste de la radio-télévision publique en Mbujimayi, dans les chefs-lieux du Kasaï oriental. La victime a été abattue par des hommes en uniforme qui l'ont appelé par son nom en pleine nuit pendant qu'il dormait avec sa famille. Ils l'ont ligoté et lui ont bandé les yeux avant de lui tirer dessus dans la parcelle voisine où il avait réussi à s'échapper. Selon Joseph Boukar Kasunga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse du Congo, Marcel Loubala, la veille, avait été convoqué à l'Agence nationale des renseignements pour une soi-disant affaire familiale. Il est le 16e journaliste tué en RDC en 10 ans. Début novembre, l'association Journalistes en danger a dénoncé la montée des attaques ciblées contre la presse dans un pays qui occupe la 152e place sur 178 dans les classements mondiaux des Reporters sans frontières.
À Bruxelles, conférence de donateurs pour financer le relèvement de la République centrafricaine, ruinée par la guerre et l'anarchie. À la veille de cette réunion, l'Union européenne, les Nations unies et de grandes ONG ont multiplié hier les plaidoyers en faveur de la RCA. Les besoins en matière de relèvement économique et de consolidation de la paix sont estimés à 1,5 milliard de dollars au cours des 3 prochaines années, souligne-t-il dans cette tribune diffusée sur Internet.
Le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre le risque d'atrocités de masse au Soudan du Sud. Ban Ki-moon a aussi averti que les casques bleus n'auraient pas les moyens de les empêcher. Eric Manirakiza.
Dans une lettre au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon note que le risque d'atrocités de masse est très élevé du fait de la recrudescence des discours haineux et de l'incitation aux violences ethniques au Soudan du Sud. Certes, 13 000 casques bleus et 2 000 policiers feront tout pour protéger les civils. Mais d'après le secrétaire général de l'ONU, les opérations de maintien de la paix n'ont pas les effectifs ni les capacités pour intervenir en cas d'atrocité de masse. Une force africaine de 4 000 soldats devait être déployée pour épauler la mission onusienne. Son déploiement prend du retard et le gouvernement de Djouba ne lui accorde qu'un soutien du bout des lèvres. Le mandat de la MINUS expire en décembre et avant son renouvellement, Ban Ki-moon estime que le Conseil de sécurité devrait décréter un embargo sur les armes et prendre des sanctions ciblées contre les personnes qui font obstruction au fragile processus de paix dans le plus jeune pays du continent.
En Libye, 12 soldats des forces armées dirigées par le maréchal Khalifa Haftar ont été tués depuis mardi dans des combats dans la ville libyenne de Benghazi contre des milices djihadistes. C'est ce que rapporte l'AFP. Benghazi est le théâtre depuis plus de 2 ans de combats quotidiens entre les forces du maréchal Haftar et des milices djihadistes qu'elles tentent de chasser de la ville. Parmi ces milices figure notamment le Conseil de la Shura des révolutionnaires de Benghazi, une coalition de milices islamistes dont fait partie Ansar al-Sharia, un groupe proche d'Al-Qaïda, et le groupe État islamique.
La 15e assemblée de la CPI s'est ouverte à La Haye sur des appels à ne pas abandonner cette juridiction unique. Ces appels coïncident avec un nouveau coup que la Russie vient de porter à la Cour pénale internationale en annonçant hier son intention de retirer sa signature du traité fondateur. Plusieurs pays africains, Burundi, Afrique du Sud et Gambie, avaient auparavant annoncé quitter la CPI, faisant notamment écho aux critiques récurrentes sur le continent de persécution à l'encontre des Africains.
Au Maroc, un sommet africain s'est tenu hier à Marrakech, en marge de la COP22, pour harmoniser la position de l'Afrique face au réchauffement de la planète. Le point avec Nani Talani.
Voulu par Rabat, ce sommet a réuni une quarantaine de dirigeants africains. Pour le roi Mohamed VI, l'Afrique paye un lourd tribut dans l'équation climat et représente, sans aucun doute, le continent le plus pénalisé par ces bouleversements qui menacent gravement les droits élémentaires de plusieurs dizaines de millions d'Africains. Il importe donc que l'Afrique s'exprime d'une seule voix. Le président sénégalais Macky Sall a rappelé les promesses des pays avancés pour financer la lutte contre le changement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars d'ici à 2020. Ban Ki-moon a noté que l'accord de Paris n'est pas la panacée. Il faut agir et l'Afrique est à l'avant-garde car 36 des 50 pays les plus touchés sont sur le continent. Il faudra se battre pour que les engagements pris à Paris en 2015 soient confirmés. Cependant, l'ombre de Donald Trump a plané sur la conférence de Marrakech. Le président élu des États-Unis a qualifié le changement climatique de canular et de complot chinois.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump était toujours cloîtré hier dans sa tour à New York où, 8 jours après son élection, il poursuivait ses consultations pour former son futur gouvernement, des tractations loin des regards qui faisaient naître de nombreuses rumeurs. Sélection de mon cabinet et d'autres postes très organisés. Je suis le seul à connaître les finalistes, a écrit sur Twitter Donald Trump, cherchant à dissiper l'impression d'improvisation entourant son équipe de transition après une nouvelle journée de rendez-vous à la Trump Tower de New York.
Au Minnesota, dans le nord des États-Unis, l'inculpation pour homicide involontaire du policier qui avait abattu un noir devant sa compagne et une fillette à bord de leur voiture en juillet dernier. Cette séquence, qui avait été filmée en direct, avait choqué les États-Unis. Précision de Jean-Roger Bion.
Le policier d'origine hispanique Jeronimo Yanez a également été accusé d'avoir tiré intentionnellement sur Philando Castile, tué à 32 ans, après avoir été sommé de s'arrêter pour un phare cassé. L'agent est aussi accusé d'avoir mis en danger la compagne de la victime, Diamond Reynolds, ainsi que la fille de 4 ans de cette dernière, qui était assise sur la banquette arrière lors du drame survenu près de la ville de Saint-Paul, rappelle l'AFP. C'est Diamond Reynolds qui avait filmé les faits depuis le siège passager, retransmettant la vidéo en direct sur Facebook Live. On y voyait Philando Castile agonisant, le t-shirt blanc maculé de sang sur le siège conducteur de la voiture, tandis qu'un policier le tenait en joue. La fillette tentait d'une voix timide de rassurer sa mère. Ses derniers mots révélés par les autorités hier ont été « Je n'essayais pas de l'attraper », en parlant de l'arme à feu qu'il portait légalement, ce dont il avait prévenu le policier. Après avoir analysé en détail les faits dans ce dossier, j'en conclus que l'emploi d'une arme létale par l'agent Yanez n'était pas justifié, a déclaré le procureur local.
Toujours aux États-Unis, un homme condamné à mort pour le meurtre par strangulation de son ex-compagne en 2001 a été exécuté hier en Géorgie. Steven Spears, âgé de 54 ans, a été exécuté par injection létale à la prison de Jackson, à 80 km au sud d'Atlanta.
En Syrie, les chasseurs bombardiers russes ont frappé hier pour la deuxième journée consécutive la province d'Idleb. Pour sa part, l'armée de l'air syrienne a mené des raids sur les quartiers rebelles d'Alep, où l'aide alimentaire va manquer après un siège de 4 mois. Les bombardements aériens et d'artillerie ont tué 35 civils, dont 6 enfants ces dernières 24 heures, dans les quartiers rebelles d'Alep et 21 autres dans le village de Batbo, à 40 km à l'ouest de la ville, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest, 6 civils, dont un enfant, ont péri à Kafar Jalès. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho.
Au Cameroun, pour la fin de l'année 2016, le Comité technique national de la balance des paiements s'attend à un déficit commercial qui devrait se situer autour de 737 milliards de francs CFA en liaison avec la hausse des intérêts payés sur la dette extérieure. Dans la même veine, les financements extérieurs resteront élevés en raison de la poursuite des grands projets, des plans d'urgence ainsi que des investissements directs dans le secteur privé. Les statistiques douanières ont enregistré une réduction du déficit commercial de 32%. Les recettes d'exportation ont baissé de 20% et les dépenses d'importation de 24%. La Chine et la France ont annoncé la création d'un fonds d'investissement d'un capital initial de 300 millions d'euros en vue de financer des projets communs en Afrique et en Asie. Géré par une filiale du groupe Caisse des dépôts dédiée au partenariat d'investissement direct, et du côté chinois par le fonds souverain China Investment Corporation, ce nouveau fonds pourra atteindre une capacité de 2 milliards d'euros. Il visera les secteurs des énergies renouvelables, de la santé et des infrastructures. Enfin, l'action du groupe Lafarge Africa, spécialisée sur la production et la commercialisation des matériaux de construction, a encore chuté de 8% sur le Nigerian Stock Exchange, terminant à 44 naira. Cela représente une baisse quotidienne de 3% et un recul de 54% depuis le début de l'année. Les investisseurs semblent préoccupés par la capacité du groupe à générer de la croissance au terme de l'exercice 2016. Son chiffre d'affaires du troisième trimestre est en repli de 15% comparé à la même période en 2015.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Troisième étape du tour cycliste du Rwanda.
Oui, l'Américain Timothy Wright remporte la troisième étape entre Karungi et Rusizi. Deux petites secondes devant le Rwandais Joseph Areruya. Au général, c'est le Rwandais Valence Ndayisenga qui reste leader avec 1 minute et 16 secondes d'avance sur son compatriote Joseph Areruya. À suivre ce jeudi, la quatrième étape entre Rusizi et Ouye, longue de 140 km.
En football, le Brésil toujours en tête en Amérique du Sud pour la course à la qualification au Mondial 2018.
Oui, le Brésil a souffert face au Pérou dans la nuit de mardi à mercredi avant de signer une sixième victoire consécutive, 2-0. À la tête de l'attaque de l'Argentine, Lionel Messi a inscrit un but et fait deux passes décisives dans un match crucial contre la Colombie avec une victoire 3-0 qui relance les Argentins. Le Chili a laissé passer la furie uruguayenne en première période, concrétisé par un but de Cavani pour finalement renverser la Céleste. 3 buts à 1. Alexis Sanchez a inscrit un doublé.
Dans la zone CONCACAF, ça va mal pour les États-Unis.
Oui, les Américains ont compromis leur chance de qualification pour le Mondial 2018 en sombrant mardi face au Costa Rica 4-0. Leur deuxième défaite en 5 jours. On parle à présent du possible départ du sélectionneur allemand Jürgen Klinsmann. Quant au Mexique, il a concédé un nul face au Panama 0-0. Enfin, le Honduras s'est repris en battant Trinité et Tobago, 3 buts à 1. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Washington, Philadelphia, 102-109. New Orleans, Orlando, 82-89. Cleveland, Indiana, 93-103. Dallas, Boston, 83-90. Detroit, New York Knicks, 102-105. Milwaukee, Atlanta, 100-107. Houston, Oklahoma City, 103-105. Golden State Warriors, Toronto, 127-121. Phoenix, Denver, 104-120.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachir, a interdit le meeting de l'opposition prévu aujourd'hui. John Linden a joint à N'Djamena Saleh Kebzabo, leader de l'Union pour le développement et le renouveau, coordonnateur du Front de l'opposition pour l'alternance et le changement, FONAC.
Le régime vient une fois de prouver qu'il est antidémocrate, que même les manifestations les plus simples prévues par la loi que constituent les rassemblements, les réunions publiques, si un parti politique ne peut pas le faire, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. Et donc, je pense, comme on l'a fait, que malgré l'interdiction, le meeting est maintenu. Ça veut dire que tous nos militants, tous nos sympathisants viendront au meeting comme prévu. Nous ne pouvons pas entériner un déni de loi comme celui-là.
Mais est-ce que le ministre a motivé sa décision?
La décision n'a même pas été motivée. Il a seulement écrit un arrêté qu'il a signé, que le meeting est interdit, c'est tout. Bon, il n'a pas motivé. La loi nous donne le droit d'organiser tout cela. Nous, on est dans la loi, on n'est pas hors la loi. C'est eux qui sont hors de la loi et ils deviennent hors la loi. Et donc, je pense que la grande leçon qu'il faut retenir de tout cela, c'est que Idriss Déby n'est toujours pas satisfait de ce que l'opposition tchadienne n'ait pas provoqué un bain de sang. Donc nous n'allons donc pas par ce meeting attenter à l'ordre public ou à quoi que ce soit.
Mais déjà, pourquoi ce meeting?
Le rôle d'un parti politique, c'est toujours sensibiliser, informer, motiver la population, toujours et toujours. Ça ne s'arrête jamais, ça ne se fait pas seulement en période électorale, ça se fait à tout moment, et c'est à cela que nous sommes en train de nous livrer, c'est pas autre chose.
Est-ce qu'il y a des négociations, des pourparlers, un dialogue quelconque qui a été entamé avec le président Déby, et où en êtes-vous?
Le président Déby est enfermé dans sa tour, il est enfermé dans sa bulle, il est devenu inaudible à tout ce qui se passe autour de lui, il ne voit pas ce qui se passe dans son pays, il n'est au courant de rien, il est dans une tour d'ivoire, il voit le Tchad d'en haut, pour lui le Tchad est un pays qui se porte très bien, où les gens vivent en sécurité, mangent à leur faim, sont dans le bonheur absolu, alors que c'est tout à fait le contraire, il ne sait pas du tout ce qui se passe dans son pays, c'est pour cela qu'il refuse le dialogue, il croit que lui seul a raison, il peut avoir raison de tout le monde, c'est ce qu'il pense. Il a un demi-dieu, c'est ce qu'il pense. Et je crois que les événements qui sont en train de se précipiter dans le pays vont lui donner tort. Dans la région de Mandoul, par exemple, il y a eu des massacres de population. Dans la région de Kélo aussi, il y a eu des affrontements. Donc ces situations-là sont en train de s'amplifier dans le pays progressivement. Il a tout intérêt, je pense, à entrer en dialogue avec l'opposition.
Saleh Kebzabo, leader de l'Union pour le développement et le renouveau, coordonnateur du Front de l'opposition pour l'alternance et le changement, FONAC, joint N'Djamena.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui avait refusé de comparaître, se poursuivra sans elle et avec des avocats commis d'office, a décidé hier le président de la cour d'assises, le juge Boyki Kouadjo. La prochaine audience aura lieu le 28 novembre. Interrogé par VO Afrique, maître Rodrigue Dadier, l'un des avocats de Simone Gbagbo, explique que sa cliente ne comparaîtra pas.
Depuis 4 ans d'instruction, on n'a jamais entendu les acteurs des faits. Voilà la difficulté. Quand on prend la marche sur la RTI, on dit que les marcheurs du RHDP ont été tirés dessus par les forces de la police nationale. Le problème, c'est que les marcheurs du RHDP n'étaient pas des manifestants aux mains nues, puisqu'on a une vidéo du Premier ministre Soro Diom qui demandait à ses militaires de participer activement à la marche type pacifique avec tous les équipements de combat. Autre problème, c'est que la police qu'on accuse d'avoir tiré sur les manifestants aux mains nues n'a jamais été entendue. Troisième problème, c'est que la police nationale désignée pour sécuriser la marche a perdu au cours de cette sécurisation de la marche là une dizaine de personnes qui étaient tuées par balle. Qui les a donc tuées, vu que la marche était pacifique?
Quand vous dites acteurs, on peut citer parmi eux hein, Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre et chef de la rébellion.
Guillaume Soro et le RHDP, Aoussou Jeannot et les autres ont organisé la marche dite pacifique du RHDP. Oui. Où Aoussou reconnaît avoir fait former avec le RHDP 300 jeunes qui ne sont pas des femmes nettes, ont été bien formés à la guérilla urbaine pour semer le taux d'Abidjan, dont notamment la marche de la RTI. Donc on lui demande de venir s'expliquer. Guillaume Soro qui donne les ordres à ses forces armées, forces nouvelles, de prendre les équipements de combat pour venir en participer à la marche. De l'autre côté, le directeur général de la police sous M. Laurent Gbagbo et l'actuel directeur général de la police sous M. Ouattara. Et c'est lui qui a désigné ces éléments de police pour sécuriser la marche. Et ce sont eux qui sont accusés d'avoir tiré sur les manifestants sur ordre de Mme Gbagbo selon la justice ivoirienne. Donc on veut que la direction générale de la police soit entendue pour nous répondre sur le fait qu'elle a effectivement tiré, dans quelles conditions et qui lui a donné les ordres. Ces acteurs-là, c'est la même chose en ce qui concerne Abobo, la marche des femmes d'Abobo où on accuse la police et la gendarmerie d'avoir tiré. Nous demandons donc au commandant du corps commando d'Abobo, qui était M. Ouattara Obiénéré, de venir comparaître pour savoir s'ils ont effectivement tiré. Nous demandons au général Kassaraté, qui est le commandant supérieur de la gendarmerie, de venir comparaître pour nous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Nous demandons à M. Philippe Mongou, qui était le chef d'état-major, de venir comparaître pour nous dire ce qui s'est passé. Mais de deux qui nous disent qu'il leur aurait donné des ordres. Parce que Mme Gbagbo n'étant pas militaire, elle ne peut pas donner des ordres à l'armée. Et les ordres dans l'armée et la police en Côte d'Ivoire sont des ordres qui sont écrits. Donc on nous donne les éléments de preuve de ces ordres écrits que Mme Gbagbo aurait donné alors qu'elle n'a pas de commandement dans l'armée ivoirienne.
Le juge dit que malgré tout, le procès aura lieu. Comment va se comporter votre cliente? Est-ce qu'elle va collaborer?
Mais l'autre cliente ne se comparaîtra pas à ce procès. Je suis désolé. Nous n'allons pas comparer à un procès où elle va se faire condamner sans éléments de preuve et sans que les acteurs des différents aient été entendus. Maintenant, comme la justice ivoirienne veut rendre une décision fantoche, une décision sans crédibilité pour jeter l'opprobre sur la justice ivoirienne, comme ils le font bien souvent, mais ils rentreront dans l'histoire par la petite porte.
Répondant aux questions de notre collègue de VOA Afrique, Bagasikoura, c'était Maître Roderick Dadier, l'un des avocats de Simone Gbagbo.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
La Russie porte un nouveau coup dur à la Cour pénale internationale. Moscou a en effet annoncé son intention de retirer sa signature du traité fondateur de Rome. Après le retrait de l'Afrique du Sud, du Burundi et de la Gambie, il s'agit assurément d'une mauvaise passe pour la CPI. Idriss Fall a recueilli la réaction de Reid Brody, avocat défenseur des droits de l'homme.
C'est bien dommage, mais en même temps, ce n'est pas surprenant. La Russie s'oppose à des enquêtes sur les droits de l'homme. La Russie fait l'objet d'une enquête de la CPI pour la guerre en Géorgie. Avec cette action, la Russie envoie peut-être aussi un message à l'administration Trump sur la CPI. Donc, la Russie donne une claque et à la CPI et à l'architecture de la justice internationale.
Avant la Russie, il y avait l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie.
Effectivement, en ce moment, les États sont réunis à La Haye, l'Assemblée des États parties de la CPI. Et c'est la plus grande crise que traverse la CPI depuis sa création. Et la Russie met de l'huile au feu.
Le Kenya, l'Ouganda et même la Namibie risquent aussi de quitter.
Il y a d'autres pays et c'est bien dommage. L'Afrique a soutenu la CPI. Les pays africains étaient les promoteurs. Moi, j'étais à Rome avec ces États quand la CPI a été créée. Maintenant que des enquêtes visent quelques dirigeants africains, les États africains disent « Oh non, on veut garder notre impunité. » Et maintenant, ces États veulent priver les victimes et la société civile de ce ultime recours.
Avouez que quand même, la Cour, sur 10 enquêtes, 9 sont menées en Afrique et nulle part ailleurs.
Oui, c'est exact. Il y a un double standard qu'il faut dénoncer. Il faut enquêter sur les autres cas aussi. Comme d'ailleurs cette semaine, la procureure a annoncé qu'elle ouvre une enquête sur les exactions en Afghanistan commises par des troupes américaines.
Vous croyez jamais une seule fois que la Cour pénale internationale pourra traîner un général américain du Pentagone ou un haut responsable de la CIA devant un tribunal?
Ça paraît effectivement très très difficile. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que les victimes, moi comme vous savez, moi j'ai travaillé pendant 17 ans avec les victimes de Issenabré. Jamais les victimes de Issenabré ne m'ont dit « Attendez, on ne veut pas faire juger notre tortionnaire parce qu'il y a notre tortionnaire qui n'est pas jugé. »
Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est en prison à la CPI et les anciens rebelles ivoiriens qui ont tué, vous-même vous l'avez documenté, ils sont en toute liberté et occupent des postes de responsabilité.
Voilà notre contradiction. Parce que jusqu'ici, la CPI n'avait fait que ce que souhaitaient les dirigeants africains. Il faut voir que la plupart des cas, que ce soit le rebelle Lubanga, que ce soit le rebelle Bemba, c'est des opposants présent dans les poursuites était voulu par le pouvoir. Et c'est seulement au moment où la CPI s'attaque aux dirigeants qui sont au pouvoir pour la première fois que les États africains disent non, on ne veut pas.
Reid Brody, avocat défenseur des droits de l'homme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les fans du football féminin convergent vers le Cameroun où débuteront samedi les 10 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations Dames. Toutefois, se rendre au match ne sera pas facile, du moins à Yaoundé, la capitale, où 45 chauffeurs de la compagnie de transport urbain ont été interpellés hier pour être allés en grève. De Yaoundé, le reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Anastasie Toudiech.
Déjà difficile en temps normal, la circulation à Yaoundé a été paralysée hier par les chauffeurs de la compagnie Le Bus. Ils ont garé leur véhicule en travers des principales artères, du jamais vu pour les milliers d'automobilistes pris au piège et qui ne savaient plus où se diriger. À Tangana, Anselme tentait d'emmener ses enfants à l'école.
Nous sommes là depuis 1h45. Le niveau de l'économie du Cameroun sera suffisamment touché avec cet environnement. Avec tout ça, les enfants arrivent à l'école à quelle heure? Vous-même, vous voyez, vraiment, c'est vraiment très gênant.
L'homme d'affaires Fouda Anatole a garé sa voiture en bordure de route pour faire le reste du chemin à pied.
Vraiment, mes chers frères, regardez, depuis la 1h30, on est sur l'embouteillage, là, pour rien que des mobiles pour trader, ça ne va pas. Donc il faut quand même essayer de faire quelque chose pour nous. Le grand de devant, là, demandez-le. Par le fait, les compagnies que nous, le bas, ça ne va pas, de nous de faire changer.
Aucune trace des chauffeurs de la compagnie Le Bus. Après avoir bloqué les rues, ils ont disparu dans la nature pendant une bonne partie de la matinée. Leur grief, selon le président de leur syndicat Amougou Onana, 20 mois de salaire et d'avantages sociaux non payés. Pas question de transporter les spectateurs de la CAN féminine 2016 tant que ces arriérés n'auront pas été épongés.
Le PM a écrit une lettre, il a donné des instructions au ministère des Finances en disant qu'on doit nous payer les droits et les arriérés de salaire et les frais sociaux avant le début de la CAN féminine 2016. Hier, il y a eu une réunion au ministère des Finances auquel tous les ministères concernés étaient assis pour parler de notre problème. C'est là où il en sort que celui qui présidait la réunion, qui représentait le ministère des Finances, a bloqué la situation en disant qu'on ne peut pas nous payer si on ne paye pas les impôts, les frais de douane. C'est déjà trop. On a déjà trop supporté. Vous voyez, aujourd'hui, nos collègues dorment ici depuis 8 mois.
La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. 45 sur les 125 chauffeurs de la compagnie Le Bus ont été interpellés. Selon les médias publics, une réunion de crise a été convoquée. C'est un souci de plus pour le gouvernement après le retard accusé par les travaux de construction des infrastructures de la CAN féminine. Malgré tout, le président de la Confédération africaine de football, Issa Ayatou, a assuré que le Cameroun est prêt pour le tournoi.
Ça ne peut qu'être un bon événement, c'est-à-dire les infrastructures sportives et l'affluence dans les stades. Tout ceci doit être chapeauté par la classe de l'équipe. Le gouvernement camerounais a fait le maximum de ce qu'on peut faire. Les infrastructures sont là, le Cameroun a dégagé tous les moyens.
Initialement prévue du 8 au 22 octobre, la CAN 2016 du football féminin a été reportée à la période allant du 19 novembre au 3 décembre, un report dicté par les conditions météorologiques au Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cette semaine dans Washington Forum, Donald Trump et l'Afrique. Quelle politique africaine pour le futur locataire de la Maison-Blanche ? Quid des coopérations militaires sur le continent ? Le candidat républicain a enchaîné les déclarations fracassantes sur l'immigration. À quoi doivent s'attendre les immigrés et les sans-papiers africains aux États-Unis ? On attend vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.